là, on revient maintenant à l'importance de la soto, l'importance de l'action. Revenons un peu à notre sujet pour expliquer de quoi on parle. Vous vous rappelez l'exemple qu'on avait cité avec la bougie? La bougie, tu te rappelles, David, l'exemple de la bougie?
Oui, le combustible.
Alors, vas-y, rappelle-moi, David, comment ça fonctionnait.
Alors là, je vais te laisser faire quand même.
On va laisser Abraham. Ah, t'étais pas là, Abraham, toi?
Si, c'est pas le dernier, c'est avant.
Avant encore, avant, oui, parce qu'on avait fait. Oui, avant Shabbat, on avait fait un autre cours, on a fait que sur Matan Torah.
Oui, donc c'était il y a 3 semaines.
Donc c'est 3 semaines. Okay. Ah, okay. Voilà, qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on avait expliqué?
On avait dit que pour que ça brûle, il faut qu'il y ait un mèche sur le combustible.
Trois choses, on avait dit.
Le combustible, la mèche et le feu.
Et le feu.
La neshama, c'est le feu.
Alors, on va commencer par le. Voilà. Oui.
Le combustible, c'est les mitzvot.
Oui.
Bah, c'est. Le corps, c'est la mèche. La neshama, le feu.
Et donc, de là, on comprend que pour brûler, une neshama a besoin des
bonnes actions.
Des mitzvot. Que sans les mitzvot, si quelqu'un va venir et il va dire « Je suis juif dans le cœur », ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est comme si tu as une bougie, mais tu n'as pas de mèche. Donc si t'as pas de, ou bien tu n'as pas de combustible. Si tu as une bougie, tu as la flamme, tu as la mèche, mais tu n'as pas de combustible, ça tient pas. Donc on peut pas être juif dans le cœur. Bien sûr.
Non, juif, il peut être...
Il reste juif, il n'y a pas de problème. Il reste juif. Il reste juif, mais il y a un problème.
Mais il s'enflamme pas.
Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est ce qu'on a expliqué. D'accord, on a expliqué donc l'exemple du roi Salomon, qui a dit que Shlomo Ameler, qui a dit que quand on fait une mitzvah, les mitzvot sont comparés au combustible. Alors, pour être plus précis, quel combustible? Le combustible, c'est l'huile. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le roi Salomon a dit, fais en sorte que Shemen al-Roshra lo-yersa, que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est les mitzvot. Ça veut dire qu'un juif qui n'accomplit pas les mitzvot, il ne peut pas avancer. Sa neshama ne brille pas. Sa neshama est toujours là, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas là. Mais s'il n'accomplit pas les mitzvot, sa neshama ne brille pas. Ça, c'est ce qu'on a expliqué longtemps.
C'est l'onction.
C'est
l'onction.
Non, là, on parlait du Zohar. Non, on n'était pas dedans. Ok. Alors, on va prendre maintenant la page. Voilà. Veiné. Page 119. D'ailleurs, au passage, vous voyez, on a ici une référence. Là. Ici, il cite... Non. Kacher Shamat, il y a un endroit ici, comme j'ai entendu de mon maître, le Magid Meserich. Ici, il cite. Ok. Parce qu'il faut que je reprenne le texte, là. Veiné. Non, c'est pas là. Excusez-moi.
David, tu peux venir d'arrêter la musique, s'il te plaît.
Oui.
Alors. Attends, je perds la page là. Alors. De toute façon, je suis ici, c'est pas grave, mais. J'ai l'impression qu'il manque des feuilles là.
Voilà.
Tu vois, il t'a écouté. Et Inébion Machalzé, ça on l'a fait. Excusez-moi, hein. Ça on l'a fait. Ça fait quand même 3 semaines, hein. Donc bon, on va retrouver.
Ouais, ça depuis Shavuot.
Voilà, Veiné, c'est bon, je l'ai. Veiné Kshadam Osek Batora. Ok. Alors, on a expliqué que l'importance, c'est l'action. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Imaginez qu'on vient à un cours de Torah. On est maintenant assis autour d'une table en train d'étudier la Torah. Baruch HaShem. Est-ce que c'est de l'action, ça? Qu'est-ce que tu en penses, Abraham?
C'est pas plus grande action que ça.
Alors, où est l'action?
C'est marqué « Talmud Torah Keneged Kula ».
Non, 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 attends. On veut des réponses concrètes.
Si c'est pas le
cas. Dans l'absolu.
Qu'est-ce qu'il y a l'action? L'intellect, la bouche.
Action.
L'action.
En quoi c'est une action?
L'action, c'est lorsque finalement.
Je vais aller plus loin. Excusez-moi, je vais aller un peu plus loin dans ma question. Quand je dis que c'est qu'on est dans le monde de l'action, ça veut dire que mon âme animale participe activement. Alors évidemment, quand je fais une mitzvah avec mes membres, mon âme animale participe activement. Mais lorsque je fais une mitzvah, lorsque je fais une mitzvah avec ma tête, avec mon cerveau, une mitzvah raffinée, comme par exemple j'étudie la Torah. Jusqu'à combien on peut dire que je suis en train de, que je suis dans le monde de l'action? Je ne suis pas dans le monde de l'action, je suis dans le monde de la pensée, je ne suis pas dans le monde de l'action. Or, on a expliqué que l'action est essentielle. Mmh. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque j'étudie la Torah? Est-ce que lorsque j'étudie la Torah, c'est considéré une action ou pas considéré une action?
On ne disait pas dans le précédent cours que c'était la finalité, c'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait faire, dormir, manger, autre, c'est la finalité, c'est lorsque tu étudiais que,
alors, donc, que donc, tu transformes. Mais ce n'est pas de l'action.
C'est la finalité de...
Mais ce pas de l'action.
Ça amène à l'action.
Ça amène.
Donc ce n'est pas de l'action. Tu dis c'est pas de l'action. Tu dis ça amène, mais ce n'est pas de l'action.
Pour le prof, c'est de l'action. Pour nous,
c'est la finalité. C'est-à-dire que même si dans les choses que tu penses n'étant pas dans le coup, qu'ils doivent se aller vers la...
Alors, c'est ce qu'il va expliquer ici. Ouais. Veine. Ouais. Page 119. Veine, que chez Adam, osek batorah. Lorsqu'un homme va étudier la Torah... Ça veut dire qu'il va étudier la Torah avec sa pensée et sa parole. On est bien d'accord? J'étudie la Torah avec ma pensée et ma parole. Qui sont raffinés. Azaï, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, à ce moment, mon âme animale est très peu mise en service, qui est utilisée surtout mon âme divine. Et alors, il dit, Nishmato shei nafsho elokit. Mon âme, qui est mon âme divine. Imshne levushia apnimim levadam. Avec mes deux moyens d'expression de mon âme divine. Qui sont les plus profonds. Shem Koar Adibur Omarshava, qui sont la capacité de la parole et la capacité de le penser. Nichlalot Beor Hashem Ensov Aruhu Umiuchadot Beichud Gamur. Et elles sont unies avec Akadosh Baruhu d'une union absolue. Ça veut dire comme ça. Il te dit, effectivement, tu as raison, que lorsqu'on étudie la Torah, c'est pas de l'action. Alors après, Behemet Avraham, pour répondre à ta question, il dira qu'il y a un avis qui pense que quand on étudie la Torah, si on étudie avec les, comment, avec quel moment on étudie la Torah? Avec la bouche. Et qu'est-ce qu'elle fait ma bouche quand je vous parle? Qu'est-ce qu'elle fait ma bouche quand je vous parle?
Elle salive.
Qu'est-ce qu'elle fait ma bouche quand je vous parle?
Elle bouge.
Elle bouge. Donc elle bouge. Donc il y a quand même une action.
Mais nous, par contre.
Non, parce que dans la Gemara, on verra, dans la Gemara, on dit que bouger les lèvres, c'est considéré une action. Je vous donne un exemple. On voit ça dans le traité Nédarim. Imaginons par exemple que Monsieur Rouven, il jure, il dit je ferai plus jamais aucune action pour Monsieur Shimon. Il a juré. C'est un Néder. Et. À un moment, il a une opportunité de parler pour M. Shimon. Est-ce qu'il a le droit? Et qu'est-ce qu'elle tranche la Gemara, là-bas? Elle dit, il n'a pas le droit. Parce que Akimat Sfatav, tu connais cette Gemara? Akimat Sfatav avait maassé. Bouger les lèvres, c'est une action.
Il rompt son éder.
Donc il rompt son éder. Donc ça veut dire, dans la Torah, on te dit que concrètement, bouger ses lèvres, c'est une action. Mais dans les faits, c'est pas vraiment une action. Donc là, c'est la question qu'on se pose. On arrête de parler depuis le début du cours, du chapitre 35, que l'important, c'est l'action, 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 l'action. Alors, est-ce que ça veut dire que le but maintenant de notre cours, c'est que dès que possible, on ferme les livres et on va aller dans l'action? C'est ça en vérité, parce que tu me poussais ça là. Tu me dis l'action, l'action, c'est à Kadosh Baruch Hu l'action, qu'on s'attache avec lui. Alors, finalement, à quoi sert l'étude? Si tu dis que l'étude est seulement un moyen pour amener à l'action, ça veut dire que si j'arrive à aller à l'action sans l'étude, je ne fais pas l'étude. Mm-hmm. Or, on voit que c'est faux. On voit que c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Et au contraire, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà... ceux à qui c'est arrivé d'étudier une page de Gemara, quand on étudie une page de Gemara, on voit très bien que si on veut la conclusion, on peut directement dire la conclusion et on a la conclusion, point barre. On va étudier des pages et des pages et des pages. Alors qu'on sait que... Bonsoir. Alors qu'on sait que la halakha n'est même pas comme ça. Pourquoi on étudie? Parce que c'est important. Mais pourquoi c'est important d'étudier? Si tu me dis que la seule raison pour laquelle c'est important d'étudier, c'est parce que l'étude amène à l'action, ça veut dire qu'une étude qui n'amène pas à l'action est inutile. Alors comment on peut expliquer? Vous comprenez ma question?
Il y a deux.
Et ça, en vérité, c'est une grande question. Non, mais c'est une question que beaucoup de gens posent. Des fois, des gens ils viennent à des cours de Gemara, des cours en général. D'accord? Hein, bonsoir. Le cours il a commencé un quart d'heure plus tard, donc j'ai vu chacun il a repoussé sa montre d'un quart d'heure.
Chacun s'est dit est-ce que je mange?
Je rappelle le hackel demain chez Guy, hein. Voilà. Et venez à l'heure, évidemment. 8h30. Alors, je reprends. C'est une question très forte qui pose ici. Ça veut dire comme ça. Puisque tu me dis que le but principal d'un juif, c'est quoi? C'est l'action, et que la raison pour laquelle l'étude est importante, c'est parce que l'étude amène à l'action. Ça veut dire que si je sens que je fais une étude qui n'amène pas à l'action, je perds mon temps. Je disais que c'est un argument qu'on entend très souvent, ça. Quand on fait des cours de Gemara, ou des fois des cours de Halakha, etc. Un argument que j'entends très souvent, je dis oui, mais ça m'arrivera jamais, ça. Ça me concerne pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il a l'impression qu'il perd son temps. C'est comme s'il s'imagine comme un docteur, tu vois. Un docteur qui va prendre des cas, qui va jamais servir. Un peu plus, il en a marre, il dit, je vais jamais me servir de ces cas. C'est quoi la réponse? Eh bien, la réponse, il la donne ici. Il dit, il y a deux buts. Il y a effectivement un premier but, c'est de s'attacher avec Dieu. Par l'action, ça, effectivement. Et ça, c'est l'action, il n'y a rien à dire. Non, par rapport à ça, l'étude amène à l'action. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que lorsqu'on étudie la Torah, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la partie la plus raffinée de mon âme va s'attacher et va être unie avec le Kadosh Baruch Hu. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça veut dire, faire la volonté de Dieu, comment je fais la volonté de Dieu? C'est avec l'action, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, comment je m'attache avec le Kadosh Baruch Hu? Ça c'est avec l'étude. Il n'y a rien de plus fort que l'étude pour m'attacher avec, pour m'attacher.
Pure, on le ressent plus quand on étudie une page de Gemara qu'est-ce qu'on étudie une page de Shulchan Aruch.
Évidemment. Alors, je vous donne un exemple. Un exemple que je me rappelle que le Rav nous donnait à l'Yeshiva. Un exemple très simple. Il dit, quand, par exemple, on veut s'attacher avec quelqu'un. Par exemple, j'ai dit, on veut s'attacher au Rabbi. Ou même plus tard, ils vont se marier, ils veulent s'attacher avec leur femme. Oh, très bien. C'est une bonne chose. D'accord? Et comment la Torah voit la chose? C'est-à-dire, comment on s'attache avec quelqu'un? Alors, évidemment, comment nous, on pense qu'on s'attache avec quelqu'un? On pense directement à l'aspect charnel. C'est-à-dire, je vais m'attacher avec une personne, je vais l'enlacer, je vais le prendre dans mes bras, etc. Et pour une femme, on ira plus loin, etc. La Torah te dit pas du tout. Tu dis, bien sûr qu'il y aura ça. Ça, c'est clair. Bon, c'est écrit dans la Torah. Mais tu dis encore plus fort que ça, c'est quand tu t'attaches avec quelqu'un par la pensée. Ça veut dire que tu réfléchis à la même chose que lui. On réfléchit ensemble à la même chose. Ça, c'est pas gagné, ça. Ça, c'est le vrai yichud.
Après plusieurs années de mariage.
Ça, c'est la vraie unité. Ça, on l'a avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Bon. Je parle pas forcément.
Des fois, ça joue contre toi.
Par exemple, puisque Avraham, il a cité dimanche le Hayom Yom. L'attachement entre le rabbi et le chassid. Il y a un Hayom Yom dans lequel le rabbi pose la question. Il dit, celui qui demande, apparemment, il y a une personne qui a écrit au rabbi une lettre, il lui a dit, rabbi, je voudrais m'attacher à vous. Et en réponse, déjà le rabbi précédent. Et le rabbi précédent répond, il dit, celui qui demande comment s'attacher à moi, qu'il étudie ce que j'étudie. C'est tout. Si on étudie les mêmes choses, donc on est ensemble, c'est terminé, on est attaché. Le rabbi Citruc qui raconte, j'ai une fois dans une conférence, Citruc qui raconte une histoire. Il raconte une fois quand il était à Strasbourg, je ne sais plus à quel rabbin. Il était jeune étudiant, il venait de Tunisie, en tout cas, il était jeune étudiant, et on lui a dit, il y a un rav dans une communauté. Bon, alors il est parti dans la communauté, il y a un rav qui donne des bons cours de Gemara. Non. Il vient au cours, le rav, ni bonjour, rien du tout. Rien. Il dit même pas bonjour, comment il s'appelle, etc. Il s'assoit, bon, lui, il respecte, il s'assoit, le cours est intéressant, il écoute. À la fin du cours, le rav, il vient au revoir comme ça, bon, même pas, il demande comment il s'appelle. Alors, il revient le lendemain, alors, petit truc, un jour, deux jours, trois jours. Et là, au bout du troisième jour, une fois qu'il y a eu plusieurs cours et que moi, ils ont posé des questions, etc., à la fin du cours, le Rav, il dit au Rav Citruc, bon, c'est un peu extrême quand même, je sais pas si je refais la même chose, mais le Rav Citruc, il dit, maintenant qu'on se connaît, je vais demander votre nom. maintenant que je sais ce que tu as dans le ventre, si on peut dire comme ça, d'accord, maintenant je vais te demander ton nom. Ça veut dire que, comment tu connais vraiment quelqu'un? C'est pas quand tu fais quelque chose pour lui. C'est quand tu partages quelque chose avec lui, quand tu partages une approche, quand tu partages quelque chose avec lui que ensemble on va réfléchir. C'est ce qu'il te dit. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'étudie la Torah? Lorsque je fais une mitzvah, je fais ce que Dieu veut. Ça c'est clair. La volonté de Dieu se trouve dans l'action. Mais lorsque j'étudie la Torah, j'attache mon esprit à l'esprit de Dieu au point que lui et moi on forme un seul corps. Et ça tu as que dans l'étude. Ça tu retrouves nulle part ailleurs. C'est la raison pour laquelle l'étude était tellement chère, d'ailleurs pas seulement aux juifs, mais aux yeux des nations. Comment les nations imaginent un juif? Regardez comment, au fil du temps, comment les goyim ont toujours dessiné les juifs. Avec quoi ils ont dessiné? Toujours avec des livres. On n'est pas pour hasard qu'on est appelé le peuple du livre. Et en Israël, d'ailleurs, en ce moment, c'est Shavuot à Sefer. Hein, tour de Shavuot, c'est toujours la semaine du livre. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez des stands dans Tel Aviv, partout, etc. Les gens, enfin, c'est un peu moins avec l'époque d'iPad, mais en tout cas, il y a toujours ça. Shavuot à Sefer. Shavuot à Sefer, les gens, on est le peuple du livre. Pourquoi le livre? Parce que lorsqu'on étudie la Torah, pourquoi c'est toujours été tellement cher chez nous d'étudier la Torah? Lorsque tu étudies la Torah, tu t'attaches avec Kadosh Baruch Hu. Tu t'attaches à un point qu'il n'y a que l'étude qui peut faire ça. C'est pour ça que l'étude est tellement chère à nos yeux. Alors ça, tout à l'heure, ce qu'il disait Abraham, il dit oui, mais les courants sont partagés. Alors, c'est vrai que voilà, on peut dire oui, mais il y a des gens comme le Lubavitch qui préfèrent l'action et il y a d'autres qui préfèrent l'étude. Faut pas réfléchir comme ça. Il y a les deux. Alors bien sûr que des fois il y a urgence, donc on n'a pas le choix, il faut passer à l'action. Mais il faut pas oublier l'importance de l'étude. Et surtout, ne pas faire l'erreur de croire qu'un cours utile, c'est un cours dans lequel il y a une application concrète dans ma vie tous les jours. C'est une erreur de penser comme ça. Le fait même de penser à un Dvar Torah, d'étudier un Dvar Torah, je m'attache déjà avec Akadosh Baruch Hu. Je vais vous dire plus que ça. Il y a même des cas dans la Torah, dans la Gemara, que la Gemara dit que c'est des cas qui ne peuvent jamais arriver, qui ne sont jamais arrivés et qui ne vont jamais arriver.
Et quand tu traites d'agriculture, moi ça ne me concerne pas.
Oui, évidemment. Et c'est ça, c'est ce qui est beau. C'est-à-dire que quand tu es à la yeshiva, par exemple...
Non, mais je sais, c'est une raison de... Non,
mais en fait, ce que je voulais dire, c'est pas seulement qu'il y a deux courants, des gens qui vont vers l'action, d'autres qui vont guérir dans le livre. C'est même au sein du livre, il y a deux courants.
Oui.
Ce qu'on appelle des collègues à l'alakha qui vont faire, ils vont plus axer leur étude sur l'alakha, et d'autres comme les briskers qui vont rester sur Baba Kama, Baba Mitzia, Baba Tra, qui n'a aucune implication, entre guillemets...
Mais ça les dérange pas. Ça les dérange pas. Bon, ça c'est encore différent.
Même
oui, c'est vrai.
De l'étude.
Ça c'est encore différent. Alors Rabbi Rachab, il encourageait à diriger l'étude vers la halakha.
Ouais,
mais l'étude. Pas tout le monde fait ça. Ouais, pas tout. C'est vrai, pas tout le monde fait ça. L'étude en soi est un but. L'étude en soi. Je viens de recevoir cette semaine d'Israël un disque dur qui s'appelle Otsar HaChorma, dans lequel vous avez 76 000 livres.
Wow.
76 000. Alors j'avais déjà avant un autre truc, tu vois, j'avais déjà un petit Bar Ilan. Pas mal. Là,
tout ça sur une clé.
Là, il y avait. Non, pas sur une clé, c'est un disque dur. Là, il y avait 10 000 livres, là, tu vois. Mais bon, il manquait des livres, parce qu'il y avait des trucs que j'avais pas, des fois, des références, etc. Quand on est passé à la gamme de dessus, un disque dur, 76 000 livres. Voilà, tu veux un peuple du livre, voilà ce que c'est le peuple du livre. 76 000. Ils sont à la version 14, et chaque année, ils rajoutent encore des.
Tu parles de recherche, hein, tu rentres ce que tu recherches, et ça te
sort les thèmes, les livres, etc. Ouais. C'est extraordinaire.
Il n'y a plus besoin d'avoir de mémoire. Hein?
Non, quand même, il faut la mémoire. C'est, bon, mais c'est pour dire. Ça veut dire, voilà. Ça veut dire que, alors tu vas dire, mais à quoi sert tellement le livre? Tu vas dire, mais à quoi sert tellement le livre? On a un petit livre, il s'appelle la Bible, il nous suffit, on se brouille avec ça, on a le Shulchan Aruch. Non, le but d'un livre, c'est pas seulement pour savoir ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire, tu prends le kit sur Shulchan Aruch, tu dis ce qu'il faut faire, c'est terminé. Le but, c'est l'étude de la Torah en soi, le plaisir d'étudier la Torah, le fait d'attacher mon esprit avec l'esprit de la Kadosh Baruch Hu, ce qu'il dit ici. C'est que, qu'est-ce que j'ai de plus raffiné en moi? Qu'est-ce qu'il y a de plus raffiné chez un homme? La pensée et la parole. C'est le moyen d'expression le plus raffiné que j'ai. L'action, les animaux, ils ont aussi l'action. Par contre, qu'est-ce que j'ai de raffiné que les animaux n'ont pas? C'est la parole et la pensée. Ça, personne n'a une parole et une pensée aussi évoluée que l'homme. Et donc, ce serait dommage quand même.
Elle peut évoluer, c'est qu'elle est reliée à un bon intellect. Eh ben, sinon, tu peux.
Oui, c'est l'intellect. Mais concrètement, le moyen d'expression le plus évolué chez moi, c'est la pensée et la parole. Alors, ça serait dommage de dire que les seuls membres, le seul vecteur de communication que j'utilise avec Dieu, c'est mon vecteur le plus grossier, mon vecteur animal. Ce serait quand même dommage. Dieu, il t'a créé un cerveau, il t'a créé une bouche, il t'a créé une pensée. Il faut l'utiliser pour Dieu. C'est-à-dire, si maintenant, je vous dis ce qui arrive en vérité. Ce qui arrive, c'est que pour la majorité des juifs traditionnels, ou bien même des juifs religieux, pour une grande partie, leur pensée et leur parole, ils vont l'utiliser dans les affaires. C'est-à-dire, leur intelligence, ils vont l'utiliser dans les affaires. Et leur action, ils vont l'utiliser dans la Torah. Ça, tu dis, t'es religieux? En quoi t'es religieux? Ben, dis, ben, je fais Shabbat. Ah, tu fais Shabbat, d'accord, mais dans ta tête. Hein?
Pratique.
Je pratique, ouais, pratique. Il fait Shabbat.
On vous appelle pratiquant.
C'est pratiquant. Voilà, il fait Shabbat. Il fait Shabbat, il est parti à la synagogue, il était à la prière, il était, etc. Ça, c'est bien, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Je dis, mais est-ce que tu as utilisé ton cerveau et ta parole pour Dieu? Pas seulement pour réciter une prière, pour penser, pour parler de Dieu. Je dis, non, pas spécialement, non. Dans mes affaires, j'utilisais, mais pas forcément pour Dieu. Ben, la demande à Zakaï, tu dis, c'est dommage. Ce que tu as de plus raffiné, tu l'utilises pas pour Dieu? Tu l'utilises pour ton business? Tu l'utilises pour tes belles paroles? Alors, pour Dieu, tu l'utilises pas? C'est pour ça, là, si vous voulez, il vient contrebalancer tout le cours précédent qu'on a eu. Autant dans le cours précédent, on a beaucoup insisté sur l'importance de l'action, autant là, il contrebalance, il dit, attention, il ne faut pas que ça vienne au détriment de l'étude, parce que l'étude est très importante. Il ne faut pas négliger l'étude. Reste de shalom.
Excusez-moi, je vais,
allez-y.
Je vais faire un petit peu le cas du diable, mais toute action a forcément en amont une démarche intellectuelle. Et ça, c'est ma première réflexion. Et ma deuxième réflexion...
Expliquez ce que vous dites, hein, pas forcément.
Bah, avant, je vais me servir un verre à boire, je vais faire une bracha. C'est mon intellect qui va ordonner à mon bras de prendre un paillet, de faire... D'accord, il y a une démarche intellectuelle.
Bah
oui, c'est mon cerveau qui va donner l'ordre à mon membre.
Oui, d'accord, ça c'est subconscient. Ça, mais à combien je vais réfléchir?
Attendez, j'ai pas fini.
Ah oui.
Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et dans l'action, il y a deux types d'actions. Il y a l'action instinctive, je dirais. Vous voyez quelqu'un dans la rue qui est en train de se faire écraser ou qui fait un tombe par terre. Vous n'allez pas réfléchir. Vous allez faire un chef.
Ouais.
Vous allez faire le sauver. Machin. Donc là, il y a un instinct, effectivement.
Oui.
Il y a l'action, enfin, il n'y a même plus de réflexion. Là, c'est l'action instinct. C'est l'instinct. Et puis, il y a un moment où il y a des actions où vous allez, avant de prendre une décision, souvent, Vous allez réfléchir. Bon. Ah, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Si je le fais, il y aura telle conséquence. Si je ne le fais pas, il y aura telle conséquence. Le pour, le contre, et puis d'un moment, vous allez... Ah, ça va cogiter, puis à un moment, vous allez passer à l'action.
Je comprends.
Donc, en fait, pourquoi dissocier les deux? Alors, finalement, je pense que les deux sont intimement liés.
Évidemment que les deux sont intimement liés, parce qu'on est des êtres humains, et qu'on a l'action et la parole, donc on utilise les deux, il n'y a pas de problème avec ça. La question est, quel est mon monde principal? Est-ce que je suis plutôt dans le monde de l'action, ou plutôt dans le monde de la réflexion? Et ça, c'est deux types de personnes différentes.
Complètement.
Voilà, donc il y a des gens qui sont plutôt dans le monde de l'action, d'autres sont plutôt dans le monde de la réflexion, dans le monde de la parole. C'est ce qu'il te dit ici. Il te dit, c'est pas parce qu'on n'arrête pas d'expliquer l'importance de l'action que pour autant, on va négliger la réflexion. Au contraire, la réflexion est très importante, puisque c'est grâce à elle que nous attachons à Kadosh Baruch Hu. Mais effectivement, les deux sont intrinsèquement liés. Donc, Nichlalot be'or ensof Baruch Hu, ou Miuchadot imo, be'yichud gamur. Lorsque j'étudie la Torah, mon âme, donc ma pensée et ma parole sont liées avec Dieu, beyichud gamur, d'une union absolue. Et ça, c'est ce qu'on appelle vei ashrat ashrina anafshu elokit, et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que la shrina réside sur mon âme divine. Alors c'est très intéressant ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Vous vous rappelez, dans l'exemple de l'huile, qu'est-ce qu'on avait dit dans l'exemple de l'huile? On avait dit que les mitzvot sont comparés au combustible. Donc le combustible, c'est l'huile. Mais qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Le roi Salomon, il dit que l'huile ne doit pas manquer dans ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un juif, pour amener la lumière de la shekhina sur son corps, il a besoin de deux choses. Il a besoin de l'étude et il a besoin de la mitzvah. Alors là, il va expliquer tout de suite. Le but de l'étude, c'est pour ramener Dieu en moi. Le but de l'action, c'est pour intégrer Dieu en moi. Vous me suivez? J'explique. C'est-à-dire comme ça. C'est pas par hasard si d'abord on commence par la réflexion et après on arrive à l'action. Parce que lorsque je réfléchis à Dieu, lorsque je pense à un Dvar Torah, je fais descendre la Shekhina sur moi. Elle m'enveloppe, elle est là, elle est autour. Ensuite, lorsque je fais la mitzvah, je passe à l'action, et ben à ce moment-là, je fais descendre la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans mon corps au point que ça devient intégré en moi. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir constamment l'action et l'étude, l'action et l'étude. Et malheureusement, très souvent, c'est pas le cas. Très souvent, on a des gens qui font que l'action et pas l'étude, et d'un autre côté, on a aussi des gens qui font que l'étude et pas l'action.
Il y en a qui font rien du tout aussi.
D'accord, il y en a qui font rien du tout aussi. Mais il y a des gens qui font que l'étude et pas l'action. Ça veut dire, moi je fais un cours de Torah, mais je veux pas l'action. Théorique. Non, il faut les deux. Comme Amar Rabotenu Zichronam Livracha, comme les Chachamim disent, on va accélérer un petit peu, parce que je vais arriver à la suite. Alors, on est... on est au troisième paragraphe de la page 119.
Juste une question.
Vas-y.
Pourtant, l'étude, elle ne rend pas tour de l'action.
Ça dépend.
Il y a un niveau de la
Si on est à un niveau comme Rabbi Shimon Bar Yochai,
que
Rabbi Shimon Bar Yochai est à un niveau que la Torah... Enfin, c'est une appellation. Que la Torah est son travail. C'est-à-dire que la Torah est son art, quoi. C'est son métier. Dans ce cas, ce que moi j'obtiens par les mitzvot, lui il l'obtient par l'étude.
Mais c'est pas tout le monde.
La majorité des gens sont pas à ce niveau-là.
Lui il est arrivé au fait en étude.
C'est-à-dire que lui il est arrivé à un niveau que, avec l'étude, non seulement qu'il arrive à faire descendre la Torah au-dessus de lui, mais il arrive à la faire descendre en lui. Mais pour la majorité des gens comme nous, comment ça se passe? Tu as l'étude, par l'étude tu attires Dieu vers toi et tu as l'action, c'est là que tu intègres. C'est comme ça qu'on fonctionne. Par exemple, même dans le business, ça marche comme ça. Comment on marche dans le business? Quand tu vas démarcher un client, comment ça marche? D'abord tu démarches avec la parole, avec la pensée, et après comment on concrétise? Avec l'action. C'est-à-dire, il faut toujours deux étapes. Mais tu as les tzadikim de grande envergure comme Rishon Bar Yochai qui arrivent à concrétiser avec la pensée. Ça c'est une dimension qui n'est pas la nôtre. Nous, des gens comme nous, on a besoin des deux. On a besoin de la pensée pour faire descendre les choses vers nous et de l'action pour intégrer les choses en nous. Voilà, il faut forcément les deux étapes. C'est-à-dire qu'un juif, pour qu'il soit en bonne santé spirituelle, il doit avoir de l'étude et de l'action. Sinon, on ne peut pas tenir. On est d'accord? On va continuer. Or, cependant, qu'aider les hamshir. Or, on est obligé de passer par l'étude. Si on n'a que l'action, l'étude ne rentre pas. Il faut faire descendre Dieu en nous et après l'intégrer en nous. Ça, c'est par les mitzvot. S'il n'y a pas de mitzvot, il peut pas être intégré. Or, cependant, Kedé, le Hamshir, Or, Veharat, Ashrina, Gamal, Gufo, Venashab, Mitche, Yachiyuni, Tablou, Veshet, Gufo, Mamash, pour faire descendre la lumière de la Ashrina, même dans mon corps, dans mon âme animale. ça veut dire vraiment dans mon corps. Tsarich le kayem mitzvot ma'asiot anasot alede aguf mamash. Il faut accomplir des mitzvot concrètes. Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Si on avait dit que je suis juif seulement dans ma tête, il y a beaucoup de gens, on les appelle aujourd'hui les intellectuels juifs. Vous connaissez ça? C'est quoi un intellectuel juif? C'est une personne qui est juive avec sa tête. C'est très bien d'être juif dans sa tête. Et c'est des gens qui ne sont pas bêtes du tout, des gens très intelligents. D'accord? Et qui ont des fois des idées intéressantes. Ils ont des, pas besoin de citer de nom, mais ils ont des fois des idées intéressantes. Ils ont des fois des regards intéressants, innovants. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que si tu es un intellectuel juif dans le sens que ta communication avec la Torah, avec la loi, ta communication avec Dieu est seulement au niveau de ta tête, ça veut dire que le reste de ton corps ne communique pas avec Dieu. Le reste de ton corps est distinct. C'est-à-dire que dans mon corps, je suis comme un goy. Il n'y a que dans ma tête, mon cerveau, donc ma bouche, ma parole et ma pensée qui, eux, sont comme un juif. Tu dis, ça ne marche pas comme ça. Tu dis, le but d'un juif, c'est de faire descendre Dieu dans ma tête et qu'après, que ça descende dans mon corps jusqu'au doigt de pied. Et ça, ça ne peut passer que par les mitzvot. Le but des mitzvot, c'est d'intégrer à Kadosh Baruch Hu jusqu'au dernier aspect de ma personne. Okay? Mais vous voyez bien l'ordre, c'est-à-dire d'abord l'étude, après l'action. L'étude, ça fait descendre Dieu en moi, l'action, ça le permet d'intégrer Dieu en moi.
À choisir entre les deux, vaut mieux celui qui fait l'action que celui qui fait l'étude.
Alors, à choisir entre les deux, évidemment, l'action est la plus importante. Mais, je veux dire, d'un autre côté, pour avoir une action durable, tu es obligé de passer par l'étude.
D'accord, mais à choisir, c'est l'action.
Je vais te donner un exemple.
Non, entre
tu es commercial.
Oui.
D'accord. Imagine-toi maintenant.
C'est le résultat.
Je te donne un exemple. Oui. Imagine-toi maintenant, tu vas aller chez un client. Tu vas le pousser, sous la contrainte ou pas, à signer un contrat. Mais tu ne vas pas expliquer pourquoi ce contrat est bien pour lui. Mm-hmm. Il a signé
pas.
Le contrat.
Ça ne tient pas.
C'est ce qui compte, il a signé le contrat.
Oui.
Mais il ne va pas tenir le contrat. Oui. Dans un an, il n'est plus le contrat.
Mm.
Alors que si tu lui as expliqué, tu as démarré par la pensée, la parole, même si l'action prend plus de temps à arriver, mais une fois qu'elle est là, elle ne bouge pas. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Évidemment, quand je vais attirer quelqu'un pour aller faire la Torah, je vais attirer quand je vais l'attirer avec l'action, je vais mettre les tefilines. Mais c'est la première étape, il ne faut pas s'en arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là du tout, sinon ça ne tient pas. Il faut tout de suite attirer un cours de Torah. Ça ne tient pas sinon. Sinon c'est parce que il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec ce qu'on a de plus raffiné. Il ne faut pas qu'il y ait une sorte de schizophrénie entre ce que je pense et ce que je suis. Ça veut dire que je pense quelque chose, mais je me comporte différemment. Ou je me comporte d'une façon, mais je pense différemment. Ça, je parle souvent de ça aux jeunes aussi. Vous savez, juste une seconde.
C'est mieux dans ce sens.
Les deux sens sont pas bons.
Non, le premier sens, c'est vraiment horrible. Parce que si vous pouvez revenir aux intellectuels juifs...
Ah oui, ça, c'est
eux, ils ont, finalement, ça leur sert à rien.
Ils ont rien, ça sert à rien, exactement.
Ah oui, c'est ça.
C'est même, je pense que c'est même pas une mitzvah pour eux.
Ah oui, c'est même pas... Non, c'est pas, c'est même grave. Dieu dit, oui, c'est même grave.
Oui, c'est pas ça, c'est encore pire, parce que finalement, t'as capté le truc...
C'est manipulation, tu captes le truc,
mais tu ne mets pas en action.
C'est en vain. C'est en vain.
C'est même...
On utilise l'énergie divine en vain. Bon.
Alors que celui qui fait sans études... Moi, il fait.
Alors, je parle souvent de ça, par exemple, quand je parle avec des élèves, etc. C'est que très souvent, dans les écoles hein, en général, pas ici, dans les écoles en général, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, ce qui se passe, c'est que c'est pas de la faute de l'école, c'est les élèves qui sont comme ça. Il y a une situation qui arrive que, pour eux, quand on leur demande c'est quoi pour toi être juif, c'est quoi pour toi être juif? Pour lui, être juif, c'est se comporter comme un juif. Mais concrètement, quand tu lui dis à quoi tu penses, quelle est ta manière de réfléchir? Il va réfléchir avec des Sartres, avec ce que tu veux, etc. C'est-à-dire que pour lui, le judaïsme, c'est pas sa façon de réfléchir. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que quand pour toi être juif, c'est que ça touche que le monde de l'action et pas le monde de la pensée, c'est un problème. D'un autre côté, c'est grave aussi quand ça touche que le monde de la pensée et pas le monde de l'action. Un juif qui est en bonne santé, c'est un juif qui a la pensée et l'action. Nefesh beria peguf bari. Une âme en bonne santé dans un corps en bonne santé. Les deux en même temps. Il faut la symbiose.
Un corps sain dans un esprit sain.
Un corps sain, c'est un esprit sain.
Malheureusement, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau courant qui est...
Un esprit sain dans un corps sain, c'est plutôt dans son
sens. Le fait de la culture juive.
C'est le ?
Le fait de la culture juive.
Oui.
Alors, tu te crois en appartenance
ouais.
au judaïsme,
ah ouais.
alors qu'en fait, tu es lié à plus à l'aspect culturel.
Kosher style.
Si tu veux.
Ah, mais tu vois, aux États-Unis, c'est... Aux États-Unis, c'est encore pire qu'en France. Ouais. Par exemple, j'ai invité il n'y a pas longtemps quelqu'un à la maison Shabbat. Ils sont très très loin. Hein. Ils vont pas à la synagogue même Kippour. Et ils se sentent juifs, évidemment, parce qu'ils sont juifs. Et pourquoi ils se sentent juifs? Parce que chaque semaine, ils sont des Ashkenazes, ils ont un groupe, ils se retrouvent à plusieurs juifs Ashkenazes comme ça. Klezmer. Ils font la musique Klezmer. C'est leur moment juif de la semaine. Et après, ils vont manger à la rue des Rosiers, dans un des restaurants là-bas, pas cachère. Hein, restaurant pas cachère. Ils vont manger les plats Ashkenazes. Pour eux, c'est vraiment juif. Qu'est-ce que tu expliques un jeu comme ça? C'est expliqué.
Compliqué.
Tu dis non. Tu dis, le judaïsme, c'est quelque chose qui doit se réfléchir et qui doit se vivre. Il faut les deux en même temps. D'accord? C'est-à-dire, on ne peut pas arriver à une situation que quand tu vas demander à un jeune, tu dis, c'est quoi pour toi être juif? Il te dit, c'est manger une pkéla vendredi soir. Ou Shabbat midi, je ne sais pas quoi. C'est pas ça être juif.
C'est pas faux.
C'est jamais vendredi
soir. C'est les options.
C'est jamais vendredi soir, Mikaela.
C'est juif tunisien.
Ou bien, tu vas aller voir un juif, tu vas lui demander c'est quoi pour toi la loi de Rabbi Shimon, il va dire on a allumé des bougies. Où on est là? Où on est arrivé là? C'est quoi ça? C'est ça la loi, on allume des bougies? On allume aussi des bougies, mais c'est pas ça la loi là. Vous suivez? C'est-à-dire, quand le judaïsme devient, comme tu dis, un peu, comme tu dis Dan, seulement culturel et qu'on oublie complètement l'aspect intellectuel qui est derrière, c'est pas bon. Tu dis, il faut les deux. Il faut l'aspect intellectuel pour me permettre de faire descendre la chose vers moi et de vivre la chose. Et après, l'aspect matériel, l'aspect action qui va me permettre d'intégrer la chose dans mon corps jusque tout en bas. Il faut les deux aspects. C'est ce qu'il dit ici.
Mais entre guillemets, c'est un peu Akadosh Baruch Hu qui a voulu. Parce que si on avait dit, parce que Akadosh Baruch Hu dit, le juif, il reste toujours juif, quoi qu'il fasse.
Oui.
Si Dieu avait dit le juif qui fait pas les mitzvot, il est plus juif, il y aurait moins eu ce problème de kosher style, de machin, de truc, non?
Ça, c'est sûr, c'est un effort, c'est bien sûr.
Parce que.
C'est le dernier cours d'Abraham ce soir, donc ouais. il va aller vous attacher aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as une majorité de juifs libéraux et réformés.
Ouais, c'est ceux qui écoutent Klezmer et qui vont manger.
Et qui se sentent parfaitement juifs.
Ils se sentent juifs à 100%.
Mais à 100%. Et ils sont juifs.
Ouais,
ils sont juifs. Et ça, pour eux, ils se sentent même juifs pratiquants. Ils sont pratiquants, c'est ça le. Ils sont pratiquants.
Ils vont à la synagogue de
Chine. Ah oui, ils vont à la synagogue, etc.
Ça marche avec le micro, c'est une femme.
Oui, voilà, bon, c'est V2, il y avait la V1, maintenant il y a la V2. C'est le Nouveau Testament. Alors.
Ça, c'est la même. Mais alors, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu peux pas leur dire que t'es pas juif parce qu'ils sont juifs. Qu'est-ce que tu peux leur dire?
Tu peux rien dire.
Des fois, ils font même pas Shabbat, ils font juste les fêtes et ils sont pratiquants.
Bien sûr.
Non, ils font tout. Ils font pas que.
Alors, continuons dans les mots. Donc voilà, donc il t'explique.
Comme ça, je débarque dans une synagogue comme ça samedi matin. Une fois rentré, je rentre dans la synagogue, j'étais choqué, c'est vrai que c'était une femme. Je dis, mais il n'y a pas une synagogue normale? Il me dit,
c'est normal. Normal?
Il m'a dit, c'est une synagogue normale. J'étais choqué, je suis pas.
Mais ils sont, je crois, ils sont à combien? 85%, je crois? C'est énorme, c'est énorme. 85% aux États-Unis.
C'est eux qui ont les plus belles synagogues.
Ah
et
oui, oui, c'était dans le quartier de Beverly Hills. C'était
des clubs, en fait.
Mais quand on te dit que la communauté juive est riche aux États-Unis, on parle principalement
bien sûr,
de.
Bien sûr, bien
sûr. Donc, revenons à notre sujet.
On peut aller dans
le conservatif. Ça, je
sais pas. Mais il y a aussi. C'est la même chose. Réformé conservateur, c'est la même chose.
Mais aussi, genre, orthodoxe, mais. Moderne.
Non, ça c'est pire, là. C'est pas bon. Il y a aussi moderne orthodoxe. Moderne orthodoxe, c'est ceux qui vont dire bon, les homosexuels, il faut quand même les tolérer. Qui vont rajouter un peu de.
Ça dépend, il y a le tout, enfin, ça c'est autre chose. Tu auras l'occasion de développer de connaître tout ça. Alors, les courants.
Il y a aussi des juifs normaux, je te rassure.
Abraham va créer une synagogue séfarade. Parce qu'il n'y a pas encore le bon juif séfarade, tu vois. La Nizette, c'est pas ce que c'est là-bas, par exemple. Il va importer la Nizette. On va continuer. Il dit Gaza, et à ce moment-là. Alors, je tourne la page. Chez Az, page 120. Bon. Chez Az, qu'à ce moment-là, Koach, Agouf, Mamash, et Bassiaz, Onichlal, Orachem, Ursel, Omurabou, Beichoud, Gamour. Ça veut dire comme ça. L'homme a plusieurs aspects. Il a un aspect intellectuel. Il a un aspect, donc, qui. On a trois moyens d'expression. On a la pensée, la parole, l'action. Quand j'étudie la Torah, j'utilise la pensée et la parole. Quand je fais une mitzvah, j'utilise l'action. Voilà pourquoi il est important d'utiliser ces trois vecteurs-là. Ve'u levu shashlishi shel nefesh elokit. Ve'azai gam koach nefesh achiyunit shebegufo mamash beklipat noga. Nethaper mira letov. Ve'nichlal mamash bekdusha ke nefesh elokit mamash me'achar shehuhu apol vose masamita. Je vais aller un peu plus loin. Je dis comme ça. Imaginez maintenant, lorsque je fais une mitzvah, je prends ma main, d'accord? Prends une pièce et je vais la mettre à la tzedaka. Qui a fait la mitzvah? Réfléchissez avant de répondre. J'ai une pièce, je prends la pièce avec ma main Donc c'est l'action, on est d'accord ?
C'est toi.
On est d'accord ?
Non, il va dire que c'est la main.
Attendez, je prends la pièce, je la mets à la tzedaka. Qui a fait la mitzvah ? C'est mon âme divine ou mon âme animale ?
Pour moi, j'aurais... Bah, tu vas dire c'est l'action, mais moi j'aurais divine. Parce
non,
que
non, non. Regardez ma main.
Ah, tu dis c'est comme ça ?
C'est l'âme animale, puisque l'action...
Il n'y a aucune action.
Ma main, c'est l'âme animale ou l'âme divine ?
Animale.
Ma main, c'est l'âme animale.
D'accord.
Donc, qu'est-ce qui se passe ?
Mais elle a été commandée, quand même.
Oh, oui, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que lorsque je fais une mitzvah, à ce moment-là, mon corps est ce qu'on appelle klipat noga. Et là, il faut que je revienne à une idée qu'on a expliquée au tout début du Tanya, que vous avez peut-être oublié depuis le temps, donc je vais rappeler, que le monde se divise en trois catégories. Il y a ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et ce qui est neutre. Neutre dans le sens qu'on peut le diriger vers le bien et vers le mal. Exemple. Je prends par exemple un morceau de cochon. C'est bon ou c'est pas bon ? Ça, c'est pas bon. Ça, même si je fais 15 000 Michel-Bérard dessus, c'est pas cachère.
C'est bon, le cochon.
D'accord ? Tout est bon dans le cochon. Alors.
Pour les autres.
Mais pour nous, c'est interdit.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc.
Mais c'est bon.
C'est bon. Enfin, c'est pas bon.
J'ai pas goûté.
Alors, bien sûr.
Ah, au prochain. Donc, revenons à notre sujet. Le cochon, c'est pas bon. D'accord ? Ensuite, tu prends des téfilines. Les téfilines, c'est bon. Ça veut dire que c'est de la kedusha. Mais on a une myriade de choses qui est d'ailleurs la majorité des choses qui est dans le monde, qui sont des éléments neutres. Une table, une chaise, un chapeau, un téléphone portable. C'est des outils. Ma main.
Une bouteille de coca.
Ma main, mes lunettes, mes yeux, etc. Ça, c'est des outils. Est-ce que mes yeux, c'est un outil négatif ? Non, je fais ce que je veux. Je peux regarder des livres de Torah, je peux regarder des bêtises. D'accord ? Est-ce que mon téléphone est un outil de Touma ? Non, je peux utiliser pour des biens, je peux utiliser pour du mal. Chaque chose que je tourne de moi, je peux utiliser pour du bien, pour du mal. Ce qui te dit ici, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une mitzvah ? Lorsque je fais une mitzvah, ça veut dire que je vais utiliser ma main, qui est un élément neutre, et au moment où je fais la mitzvah, cet élément neutre, je le rends kodesh. Ça veut dire qu'au moment où je fais la mitzvah, je vais prendre ma main, et qu'avec ma main, je vais prendre la pièce de tzedaka, je vais la mettre à la tzedaka, ma main, à ce moment, devient kodesh. Ma main devient sainte. Les gens, ils sont là, ils croient, la main sainte, etc. Ma main devient sainte. Évidemment, si avec cette même main, je fais une bêtise par la suite, ma main devient impure. Il n'y a pas de question dessus. C'est pour ça que je vais te montrer l'importance de l'action. C'est-à-dire, quand tu fais une mitzvah, non seulement que tu fais descendre Dieu en toi, mais carrément, tu transformes ton corps. Tant que tu fais la mitzvah, ton corps se transforme en kdusha. Alors que d'un autre côté, quand je fais une avera, mon corps se transforme en avera. C'est très puissant ce qu'il dit ici. Alors, pour répéter les termes qu'il dit ici, parce que regardez la puissance des mots, au milieu de la page 120, nithaper mera letov. Au moment où je fais une mitzvah, avec mes mains, ou avec mes pieds, ou avec mes yeux, ou avec mes oreilles, peu importe, à ce moment-là, ce membre se transforme du mal vers le bien. Venir klal mamash bigdusha kenefesh elokit mamash.
Pas du mal vers le bien, c'est on a dit alors du neutre.
Oui, mais le neutre est une sorte de mal récupérable. C'est un mal concrètement. Donc kenefesh elokit mamash, il devient aussi kadosh que l'âme divine. Mais achar, puisque chez hu apoel voc amitzvah, puisque comme David a dit, au final, qui c'est qui fait la mitzvah ? C'est l'âme animale. C'est pas l'âme divine qui fait la mitzvah. Donc, si j'ai réussi à faire en sorte que mon âme animale fait la mitzvah, elle prend la pièce, elle la met à tzedaka, à ce moment-là, mon âme animale a été transformée en kedusha. Voilà pourquoi c'est très très important de passer par l'action. On connaît la fameuse histoire de, je sais plus qui c'était pas Beethoven, comment il s'appelait, non, c'est pas Beethoven, un grand penseur grec.
Aristote.
On raconte Aristote, c'est une histoire que Maïmonide raconte ça aussi. On raconte que Aristote, vous savez, dans la vie de tous les jours, Aristote c'était un
dépravé.
Catastrophe.
Ouais.
Dépravé de chez dépravé. Quoi. Je ne peux pas rentrer dans les détails, ça ne se fait pas. D'accord ? Et une fois, il avait des idées très très profondes, très raffinées. D'accord ? Et une fois, ses élèves lui ont posé la question. Ils lui ont dit, mais comment quelqu'un qui a des idées aussi raffinées que vous peut faire des choses aussi basses, animales, qui n'ont rien à voir avec ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a répondu, il a dit, quand je suis devant vous, je suis Aristote. Quand je suis là-bas, je ne suis pas Aristote.
Hein ?
ou chinois. Enfin, non, il a dit. Hein,
c'est que ça, en fait, sa pensée n'est pas d'influence.
Exactement. Ça veut dire que là, on a une personne, d'accord, qui a carrément un clivage. On peut parler d'un clivage carrément. Un clivage entre ce qu'il pense et ce qu'il est. Deux personnes différentes. Hein?
Non, c'est possible.
Bah, c'est possible, parce que c'est.
L'intellectuel, lui.
Bah, disons, c'est-à-dire qu'il n'est pas honnête avec lui-même.
Bah, non,
si,
c'est que.
Peut-être qu'il est trop honnête, et je pense que. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, en gros.
Mais on a tous ce clivage, on a tous cette schizophrénie. Vous savez, on a l'âme animale et l'âme divine. Tu as le juif que je suis à la synagogue, le juif que je suis dehors.
S'il n'y avait pas ça, il y aurait.
Mais là, c'est plus fort, là, c'est plus accentué. Là, c'est plus accentué, évidemment. Mais je donne ça, c'est un exemple, c'est une caricature, c'est pour montrer jusqu'à où ça peut aller. Une personne peut être très très évoluée spirituellement, parce que c'est la spiritualité, ça, c'est une finesse d'esprit extraordinaire que jusqu'aujourd'hui on apprend ce qu'il dit encore. Une finesse d'esprit extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a inspiré des générations et des générations, jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore compris tout ce qu'il a dit. Et pourtant, au niveau de la vie de tous les jours, ça ne suit pas. Ça veut dire qu'il y a un clivage entre la spiritualité, entre la réflexion, entre la pensée et la parole, et entre l'action. Deux personnes différentes. Ok, donc c'est pour ça qu'il insiste ici beaucoup sur ça. Il te dit, comme quoi?
Non,
rien à voir. Là, vas-y.
Bah, Salé, il est dans l'action aussi.
Bah, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, c'est puisque vous avez parlé de Baba Salé, Lavdil. Puisqu'il parlait de Baba Salé, Lavdil par rapport à Aristote. Baba Salé, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils connaissent de Baba Salé? Ah, vous savez, je suis de la famille de Baba Salé. D'accord, je veux parler un petit peu. Lorsqu'on demande aux gens qu'est-ce qu'ils connaissent de Baba Salé? Alors, les gens disent, Baba Salé, oui, il a fait des miracles, il a fait beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes actions, etc. Vous savez que Baba Salé était un très très grand Talmid Chacham, qu'il était Dayan, juge. Juge, aujourd'hui, c'est minimum 10-15 ans d'études, au bas mot. Je ne parle pas d'un juge qui a étudié comme ça, un vrai juge. Il était Dayan à 17 ans. 17 ans. Au Maroc. Je peux vous dire, au Maroc, ils font pas de cadeaux là-bas. Hein. Au Maroc, tu connais pas. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas, on va dire, bon, quand la cave va dire, on va t'encourager. Il n'y a pas, on t'encourage pas. Tu connais pas. Hein? Imagine, 17 ans. Bon, il a décidé d'utiliser comme vecteur d'influence, principalement un vecteur d'influence dans l'action. On a retrouvé aujourd'hui, dans les dernières générations, des conversations et donc des lettres entre lui et le rabbi. Alors si je vous dis quand on lit ces lettres, on comprend rien du tout. Chaque ligne, 3-4 références. Il se parlait en référence. Mais j'ai à la maison, ce que je vous dis, j'ai à la maison. Hein? Ça veut dire, imaginez, je t'écris, tu vois, je t'écris 50 références. Je te dis oui, mais il y a ça. Mais regarde-ci, juste en référence, tu vois. Il répond en référence. Il se parle en référence.
C'est comme les joueurs d'échecs qui jouaient les yeux bandés ou qui faisaient plusieurs trucs en même temps.
Allez, c'est parler en référence, c'est pas compliqué. Et j'ai même une lettre à la maison dans laquelle Baba Salé, il a demandé au rabbi l'autorisation de venir à New York pour venir habiter à New York. En Tafshin Yud Bet, 5712, 1952. Il voulait venir à New York. Parce que vous savez, les Juifs sont venus du Maroc. Il y en a qui sont partis en Israël, ça se passait pas forcément toujours comme ils voulaient. Donc il y en a qui partaient après en France, il y en a qui partaient aux États-Unis. Lui, Baba Salé, il cherchait, etc. Baba Salé, il voulait aller aux États-Unis. Rabbi lui a dit non, il a dit allez en Israël, là-bas la communauté sépharade a besoin de vous. Une lettre que j'ai à la maison. Ça veut dire que, encore une fois, dire qu'un tzaddik était tzaddik que par ses actions, c'est une erreur. Alors après, il décide qu'est-ce qu'il va développer le plus. Mais un juif, en bonne santé, il doit avoir un esprit évolué dans la Torah, une parole qui évolue dans la Torah et une action qui évolue dans la Torah. Il faut les trois en même temps. Sinon, ça ne marche pas, c'est un peu la route.
On n'a jamais vu d'ailleurs un tzaddik que par ses actions.
Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Ce que tu dis sur Aristote, c'est vrai que c'est. Je ne m'attendais pas. Jusqu'au XXe siècle, Arendt, tout machin qui est influencé par Aristote.
Mais tous,
c'est incroyable.
Mais aujourd'hui, la pensée d'aujourd'hui est influencée par la pensée grecque. 100%, c'est la pensée grecque aujourd'hui.
Mais pas tout. Tu dis comme ça, c'est.
La pensée de l'Occident, c'est la pensée grecque. À 100%.
C'est-à-dire que Dieu, il a mis quand même dans ces. Chez Goïm, à cette époque-là, il avait mis autant de.
Il y a une chorma. Chez les maîtres de la Gemara, on a eu des gens qui ont quitté la Torah à cause de ça, pour aller voir ce qu'il y avait chez les Grecs. Et c'était très profond ce qu'ils avaient.
C'est pas
les imbéciles, hein. Ouais. C'est des gens très très profonds.
C'est obligé qu'ils aient une puissance.
Il y a une puissance. D'ailleurs, c'est par rapport aux gens comme ça, en pensant à Aristote aussi, que la Gemara a dit celui qui dit il n'y a pas de chorma chez les Goïm ne le croit pas. Il y a une chorma chez les goyim. Par contre, celui qui dit Non, voilà. Parce que bon, des fois, des gens sont tellement convaincus, tu vois, des gens qui sont tellement convaincus.
Qu'on est tout honneur de la pensée.
Qui vont dire la Rhamma, c'est la Torah. Ah, c'est faux. Or, c'est faux, la Torah, tu dis non. Il y a une Rhamma. Il y a les sciences des nations. Par contre, celui qui te dit, il y a une Torah chez les nations. Là, est-ce que tu le crois, David?
Non.
Là, tu le crois pas. Parce que c'est quoi la Torah? La Torah, c'est un mode de vie. Ça, il n'y a pas chez les goyim. Ça, Aristote, c'est pas son mode de vie. C'est une Rhamma. C'est une science. Après, il peut en faire son mode de vie s'il veut, mais c'est pas un mode de vie. La particularité de la Torah, c'est que c'est en même temps une science, et en même temps, ça descend dans le corps, en même temps, c'est un mode de vie. Les deux en même temps. Chorma et Maasé. Voilà. Donc, le but du cours d'aujourd'hui, c'était de bien insister beaucoup, longuement, sur le fait que on doit avoir l'étude et l'action, et que les deux doivent être en symbiose parfaite. Par Chas v'Shalom, séparés l'un de l'autre. On va continuer encore quelques lignes. Et donc, il dit, Shebil Ado, je suis en bas de la page 120, Lo aita nefesh aelokit po'alet beguf klal ki ruchnit vaguf gashmi uchumri. Si on s'arrête un peu sur les détails. L'âme divine est spirituelle. L'âme animale est matérielle. Donc quand j'ai pris ma pièce dans ma main pour la mettre dans la tzedaka, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai une volonté qui émane de l'âme divine qui a été matérialisée par l'âme animale. Donc à ce moment-là, l'âme animale est devenue l'outil de l'âme divine. Donc elle est devenue Kodesh elle aussi. C'est pour ça que c'est très important de passer par l'action. Quand je passe par l'action, je matérialise ce que l'âme divine veut, je matérialise la relation qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. Ve'a memutza benehem, in nefesh achiyunit, amlu beshet, bedam ha'adam shebelibo b'chol haguf. Alors là, ça c'est deux lignes du Tanya. C'est deux lignes qui ont fait parler beaucoup les grands penseurs Chabad. C'est très très compliqué. Parce que, vous voyez comment j'ai présenté là? Il y a l'âme divine et il y a l'âme animale. Et qu'est-ce qui traduit? Regardez en haut de la page 121. Et l'intermédiaire entre eux est l'âme vitale. L'âme vitale. On la connaissait pas celle-là. Vous la connaissez celle-là? L'âme vitale. Sache que jusqu'à maintenant, on a toujours parlé. David, combien d'âmes tu connaissais toi?
L'âme animale, l'âme...
L'âme animale, l'âme divine. Ce qu'on a toujours pensé, non? Et là, regardez ce qu'il dit. On a parlé de l'âme divine, qui est celle qui veut faire la mitzvah. On a parlé de l'âme animale, qui est celle qui fait la mitzvah. Et apparemment, on parle de l'âme vitale. Nefesh achiyunit. Alors ça, c'est un grand débat. C'est un grand débat chez les penseurs Chabad aujourd'hui pour savoir comment définir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trois âmes? Qu'il y a l'âme divine, il y a l'âme animale et l'âme vitale.
Celle qui donne l'énergie.
L'âme vitale qui donne l'énergie. Dans les faits, la majorité disent, bon, en tout cas, moi j'explique, en tout cas, comme explique en général le Rav Stenzals dans ses cours, et c'est comme ça qu'on a expliqué depuis le début du Tanya, qu'il faut comprendre que quand on parle ici de l'âme vitale,
c'est le vecteur.
C'est pas une âme distincte. C'est une sorte de jonction entre l'âme divine et l'âme animale, mais c'est pas une âme distincte. Mais il y en a qui sont pas d'accord avec ça. J'ai vu par exemple, on m'a dit récemment que le Rav Gopin en Israël, qui est un des grands penseurs Chabad, lui pense, d'après cette référence, il pense, c'est deux petits mots, hein, mais de ça lui pense, qu'au fond de nous, on a trois âmes, pas deux âmes, trois âmes. On a l'âme divine, l'âme animale, et on a une âme vitale. L'âme vitale, c'est une âme qui se trouve dans le sang, c'est-à-dire une âme qui fait le mouvement. Bon. Ça reste difficile à comprendre, je vous dis honnêtement, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, parce que dans les faits, c'est pratiquement le seul endroit du Tanya où il en parle.
Ça mènerait quoi de plus?
Bon, c'est comme, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, c'est quand même intéressant de savoir. Mais vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez une fois dans le Tanya, on est quand même au chapitre 35, est-ce que vous vous rappelez une autre fois jusqu'à maintenant, Abraham, est-ce que vous vous rappelez une autre fois dans le Tanya jusqu'à maintenant qu'on a parlé de l'âme vitale?
Je peux comprendre qu'il y a deux énergies qui peuvent à un moment donné s'opposer, mais l'âme vitale,
c'est difficile. C'est difficile.
C'est
bizarre. Ok, effectivement, c'est difficile. Voilà. Alors, je reprends. Ok.
Voilà. Alors, comment on l'a dit?
Oui, Nefeshah. En fait, moi, de ce que j'ai compris, de ce que je pense, c'est que c'est pas vraiment une âme distincte, c'est une sorte de charnière. C'est une sorte d'élément qui fait intermédiaire entre qui fait la jonction entre l'âme divine et l'âme animale. Je dirais même, si je peux aller un peu plus loin, ça le Rav Sainz ne le dit pas, je dirais même que c'est peut-être le moi. C'est quoi le moi? Quand je dis je, c'est quand tu dis David, tu dis je, c'est qui je? C'est qui moi?
C'est tout, c'est mon âme animale, mon âme.
Non, c'est mon âme. Non, j'ai pas demandé c'est qui ton âme animale, j'ai dit c'est qui moi?
C'est ma conscience.
Ah, c'est qui ma conscience?
C'est moi.
C'est qui moi?
C'est ma conscience.
Non. C'est mon âme animale, c'est mon âme divine. Ouais. Où se trouve le moi? Est-ce que votre main est plus vous que votre tête? Ou le contraire?
On peut se poser la question. Je sais pas. Mais on peut pas détacher.
Ah, bah, attends.
Ça donc, dépend pour un tennisman, ça va être plus sa main.
Oui.
Vas-y. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un tennisman, il réfléchit beaucoup.
Il y en a.
Mais c'est, on a dit aussi dans le Tania, que, enfin, juste avant, que le. Que les mitzvot, ça nous donnait de, la, de l'énergie.
C'est vrai. Ça, c'est, lui, c'est l'huile. C'est l'huile.
De la vitalité même.
Oui, c'est vrai.
Ça veut dire que. Et on dit aussi, je sais plus où dans la Chassidoute, mais j'avais entendu cette idée-là. Que si on allait faire que des avérotes, on allait perdre de notre vitalité. Et donc on allait mourir de par ça. Parce qu'après, après
oui,
d'avoir que de la culpa de nos gardes,
oui, oui,
on
a
une grande animation de mouvement, la forme.
D'accord.
Alors à ce moment-là, l'âme vitale, c'est les mitzvot, l'action, les choses.
Non, parce qu'apparemment, ceux qui veulent dire, ils disent non, c'est, apparemment, bon, ceux qui veulent dire que l'âme vitale est une âme distincte, ils veulent dire qu'il y a trois âmes. Trois âmes, il y a âme animale, âme vitale, âme divine. D'accord ? Les goyim ont que l'âme animale et l'âme vitale, et les juifs ont en plus l'âme divine. Dans les faits, on parle pas de ça dans Tania. Dans Tania, toujours on parle de deux âmes, l'âme divine, l'âme animale. Mais, je reviens sur le moi, c'est qui le moi ? Quand je dis le moi, c'est qui le moi ?
C'est moi.
Le moi, c'est la jonction entre l'âme divine et l'âme animale. Qui fait que je décide, est-ce que je fais la mitzvah ou pas la mitzvah ? Vous suivez ? C'est-à-dire comme ça. J'ai une main ici. Qu'est-ce qu'elle veut faire cette main ? Qu'est-ce que cette main aurait envie de faire, David ?
Ce que tu lui proposes.
Non, j'ai compris. Mais qu'est-ce que la main, par nature, elle aurait envie de faire ?
Une mitzvah.
Non, rien du tout.
Est-ce qu'elle va aller jouer au foot ? Est-ce qu'elle va aller, je sais pas moi. Ah, la main ?
Elle n'a pas envie de travailler.
Elle veut attraper le portable ?
Oui, elle veut regarder. Elle veut regarder où s'en est le match.
Elle veut zapper.
Elle veut zapper. Alors,
t'as une ?
Alors, c'est qui te dit ici ?
Non, pas de...
Ce qui explique ici la demande à Zaken, il te dit que quand un juif, oui. Quand un juif fait une mitzvah, à ce moment-là, il a son âme divine et son âme animale qui vont être en symbiose parfaite pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être transformé au point qu'il n'a plus d'âme animale, il a toujours une âme animale, mais au moins, il va pouvoir faire une mitzvah par rapport à Kadosh Baruch Hu. Okay. Alors, on va s'arrêter là pour l'animal aujourd'hui parce que je dois aller à une bar mitzvah. Oui, hein.
L'animal, il a une âme.
Tout a une âme.
Donc, l'homme, il a deux âmes. Le juif, il a deux âmes.
A priori, trois.
L'âme animale et l'âme juive.
Et l'autre, il a une seule âme.
Le goy, il a que l'âme animale. Et l'animal, il a l'âme
réunit. Je ne sais pas. C'est pas clair, parce qu'on retrouve nulle part dans le Tania cette nefesh réunit. C'est bizarre.
Parce que le Tania, on ne parle pas des animaux. Mais l'humain est un animal.
Tu veux dire qu'on est trois en un ?
Bah oui.
On dit
pas qu'il
n'a pas de... Bon, je ne sais pas.
C'est distingué parce que tu dis c'est chez le goy, il y a une âme animale, il y a quand même une âme divine.
Non.
Mais la,
peut-être, la... Pas des, peut-être pas.
Ça peut être un animal raffiné. Ouais. Ça peut être un animal raffiné, mais c'est, ça reste.
Ouais, je pense que c'est, après, c'est une question de sémantique, c'est une question de mots que l'on emploie. Ouais. Mais les gens qui ont une finesse, certes, ou une approche divine chez les goyim, il y en a. Peut-être que la différence fondamentale, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le fait qu'on a la Torah et que...
L'âme divine, ils n'ont pas. Maintenant, on peut avoir une âme animale très raffinée.
Est-ce qu'ils ont un libre-arbitre ?
Oui.
Je te donne un exemple. Par exemple, pour donner un exemple de ce que c'est une âme animale raffinée. Par exemple, imagine-toi un enfant qui est en dessous de l'âge de bar mitzvah, qui est bon, qui est gentil, qui a envie d'aider les autres. Son âme divine n'est pas encore là, parce que l'âme divine va se développer à la bar mitzvah. Donc, il agit principalement avec son âme animale. Donc on peut avoir une âme animale qui est très raffinée et qui a envie de bien faire les choses. Comme on a des animaux qui sont très bons, qui sont très doux. C'est pas un négatif, animal. Dans le mot, en français, comme on entend animal, mal, on se dit bon, c'est mauvais.
C'est pour ça que je dis que c'est une histoire de mots.
Ah oui, exactement. Alors, il faudrait peut-être trouver un autre mot, mais c'est âme animale, c'est quelque chose de très raffiné. Mais l'âme divine, c'est encore autre chose. Donc pour résumer...
On parle d'une âme divine avant 13 ans ?
Non, avant 13 ans, elle n'est pas développée.
Elle est présente,
mais elle ne se développe pas.
D'accord.
Ça veut dire qu'elle ne parle pas. Elle n'a pas son mot à dire. À partir de 13 ans, c'est là qu'elle a son mot à dire. Pour ça, d'ailleurs, quand tu as 13 ans, on n'est pas justiciable, etc. Parce que voilà, on n'est pas.
Et pourquoi on dit que le marié, le chatan, il a son âme qui est devant son nez ?
Devant ?
Devant son nez. Que l'âme, elle va rentrer en lui juste au moment où il va se marier.
Non, parce qu'on dit comme ça. On dit que c'est autre chose. On dit que lorsqu'on se marie, Kadosh Baruch Hu, il nous fait un reset, si on peut dire, de l'âme. C'est-à-dire que l'âme repart à zéro. Et effectivement, l'âme finit par intégrer entièrement notre corps lorsque on se marie. Ça, c'est vrai, effectivement. C'est écrit, ça aussi. Mais bon, il y a trois étapes. Il y a la Brit Mila, la Bar Mitzvah et le mariage. Avant la Brit Mila, l'âme ne rentre pas dans le corps. Grâce à la Brit Mila, l'âme rentre dans le corps, mais elle se dévoile pas. À la Bar Mitzvah, l'âme commence à se développer. Au mariage, l'âme termine de se développer dans le corps de la personne. Trois étapes. D'accord.
Donc, c'est bizarre, enfin, pour revenir à l'histoire de sémantique, quand on parle, on dit quelqu'un qui est mort, il est quelqu'un qui est sans âme.
Pourquoi ?
Quelqu'un qui a perdu la vie, il a perdu son
âme. Non, il a la majeure partie de son âme.
Mais qui... comment un être...
Ah, pourquoi on va au cimetière alors ? Pourquoi on va au cimetière ? Pourquoi vous allez au cimetière ?
Quand quelqu'un meurt, il rend son âme. On dit qu'il rend l'âme.
Je répète ma question. Pourquoi quelqu'un qui meurt, on va au cimetière ?
Pourquoi on va au cimetière ?
Qu'est-ce qu'on a perdu au cimetière ?
S'il n'y a plus rien,
on perd le corps. Mais là,
je parle, imaginez par exemple quelqu'un qui est parti de ce monde, deux ans après, on va au cimetière, un an après ou dix ans après.
Ah, oui.
Pourquoi on va au cimetière ? Qu'est-ce qu'on a perdu là-bas au cimetière ? Il reste un corps, il reste des cendres. Enfin, il reste.
Non, la poussière.
Il reste la poussière.
À partir du moment où on enterre, l'âme remonte, non ?
Pas du tout, parce qu'il y a une partie de l'âme qui reste toujours attachée au corps.
D'accord.
Quoi qu'il arrive. La majeure partie remonte en haut, certes, mais il y a une partie qui reste attachée.
Non, ce que je ne comprends pas, c'est comment un être vivant, avant 13 ans, c'est pour ça que j'ai insisté lourdement. Comment on peut dire qu'il n'a pas d'âme puisque c'est la vie, l'âme.
Non, j'ai pas dit qu'il n'a pas d'âme.
Il n'a pas d'âme.
Non,
il n'a pas l'âme divine.
J'ai dit que son âme divine
n'est pas développée.
Elle est présente sans être en fonction.
Ça veut dire qu'on peut pas dire qu'il a réellement les facultés juives
ou qu'un non-juif n'a.
Les facultés juives chez un enfant ne sont pas développées.
La vie en elle-même, c'est l'âme divine. Même un animal a une âme.
Tout a une âme. Mais là, je parle d'autre chose, je parle de l'âme divine. C'est autre chose.
C'est une façon de segmenter les âmes. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs.
Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, comme je vous dis, parce que je dois aller à une bar mitzvah. Alors, donc, en tout cas, on souhaite, Bezrat Hashem, un très bon départ à Avraham. Ça y est, c'est confirmé ?
Hein ? J'étais aujourd'hui
à la consulat. Ça y est, t'as reçu le visa ? Mazel Tov. Donc, on souhaite, Bezrat Hashem, un très bon départ à Avraham.
Mais on a lié aux États-Unis.
Il fait ça. Non, c'est pas Alia, c'est stagnation. Alors,
si, il va faire Alia des autres, qui va aller les rencontrer tous les. Non, mais. S'il arrive à faire. Qu'il y a
comment t'appelles Alia ? Hein ?
Il n'y a plus de réformiste.
Alia Gashmit.
Il part avec.
Avec une. Gashmit.
Non, déjà Gashmit, vous revenez. Non, sérieusement. On va lui souhaiter Bezrat Hashem qu'il puisse retrouver là-bas une bonne chavruta pour continuer amen. La Gemara et le cours de Tania. Bezrat Hashem.
Alors, avec nous, il n'y a pas de problème.
Sauf c'est les horaires que ça ne va pas coller à mon avis.
Bezrat Hashem.
À midi.
Et que Akadosh Baruch Hu fasse que Meshane Makom, Meshane Mazal, c'est pas que le Mazal actuel n'était pas bon, mais que le Mazal là-bas il sera encore meilleur. Bezrat Hashem. Et qu'on puisse toujours faire du nachat à Kadosh Baruch Hu, où qu'on soit, où qu'on se trouve.
Amen.